Religion en regard sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers amis, chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour cette émission Religion en regard qui se propose de parler en large des religions, justement par l'Université populaire des religions, entre autres et surtout d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Cadenne.
Bonjour.
Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette Université populaire des religions qui nous tient tous à cœur et que nous voulons connaître de mieux en mieux. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous allons en savoir un petit peu plus sur les événements, sur ce qui s'est passé l'année dernière, comment ça évolue, ce que vous allez nous proposer à l'Université populaire des religions. Mais avant tout ça, eh bien, je vous propose de vous présenter un petit peu plus, bien que beaucoup de Nîmois vous connaissent. Nicolas Cadenne, ce n'est pas un nom inconnu à Nîmes. Alors, nous vous écoutons.
Écoutez, merci déjà pour cette invitation à échanger sur ce beau projet qui a déjà un peu commencé d'ailleurs, l'Université populaire des religions de Nîmes. Pour ce qui me concerne, je suis Nîmois, né à Nîmes il y a 44 ans de cela. J'ai été l'ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui était une instance gouvernementale qui a exercé entre 2013 et 2021 sous différents gouvernements, différents présidents de la République, qui était une instance transpartisane composée de parlementaires de tous bords et de hauts fonctionnaires dirigeant les administrations centrales concernées par la question de la laïcité et puis de personnalités reconnues pour leurs travaux sur le sujet, de membres du Conseil d'État aussi, et qui avait pour rôle de conseiller les autorités, les pouvoirs publics sur les politiques publiques à mener en matière de laïcité, rôle aussi de concevoir et développer des plans nationaux de formation qui d'ailleurs se déclinent toujours sur le territoire pour certains, rôle aussi de rappeler ce qu'est vraiment la laïcité dans le débat public et puis auprès des acteurs de terrain, de les accompagner, de les aider en tant que praticiens de la laïcité au quotidien pour qu'il n'y ait pas d'erreur et une bonne application de cette laïcité et puis aussi de rôle de prévention des contentieux lorsqu'il y avait des désaccords justement sur la bonne application de la laïcité entre administration, collectivités territoriales et associations par exemple. Et donc travail extrêmement riche, enrichissant, passionnant d'ailleurs, qui m'a amené à auditionner chaque année l'ensemble des courants de pensée mais aussi des religions, bien entendu des grandes religions et de toutes celles qui le souhaitaient, présentes sur le territoire, et il y en a beaucoup en France, et qui m'a amené bien entendu à davantage connaître encore, que je ne pouvais le connaître déjà, le monde des associations cultuelles et des diverses traditions religieuses françaises dans l'Hexagone ou d'ailleurs aussi dans les Outre-mer où il y a encore une très grande aussi richesse et diversité. Ensuite, j'ai été haut fonctionnaire, j'ai dirigé une administration de l'État, la DETS, directeur adjoint puis directeur de la DETS dans l'Hérault à Montpellier, avec de belles missions, concentré sur le social, l'insertion des réfugiés ou l'insertion par l'activité économique ou la résorption des bidonvilles, mais aussi l'aide aux entreprises en difficulté et puis aussi l'inspection du travail, l'inspection sanitaire et sociale, les pupilles de l'État, les droits des femmes, enfin c'est une administration assez large, avec des missions qui étaient tout à fait là encore passionnantes. Et puis depuis quelques mois maintenant, j'ai ma propre structure. À la fin de cette mission, j'en ai profité pour créer ma propre structure de conseil sur ces thématiques de solidarité, mais aussi de formation sur la question des faits religieux, de la gestion des faits religieux et de la laïcité, puisque justement j'ai pu constater par mes précédentes fonctions combien finalement ces questions sont encore mal connues, méconnues et parfois même mal interprétées sur le terrain. Et donc ça nous amène aussi à la question qui nous rassemble aujourd'hui de cette Université populaire des religions qui vise à transmettre des connaissances, des savoirs sur des traditions qui finalement sont dans notre actualité tous les jours, mais que les uns et les autres ne connaissent pas toujours vraiment bien.
On entend bien dans ce que vous dites, dans tout votre parcours, ben, cette relation aux autres, relation envers les, je dirais, les, peut-être les plus démunis aussi, vers les petits, entre guillemets, hein, et puis vers ceux qui ne nous ressemblent pas forcément, notamment dans leur religion. Et je trouve que c'est un beau parcours qui s'intègre effectivement tout à fait à cette université populaire. On incite bien sur populaire, parce que c'est important de, qu'elle soit accessible à tous et à toutes. Et donc, vous, quand vous vous êtes engagé à l'université populaire, c'était déjà au tout début du démarrage, dans les débuts avec Claire Desménard, par exemple, et puis François Claveroli,
tout à fait. Claire Desménard, qui était donc pasteur à Nîmes, m'a appelé pour me proposer, et je l'en remercie encore, bien sûr, de participer à ses travaux sur, qui se lançaient donc sur l'Université populaire des religions. Donc je ne suis pas un cofondateur, je n'étais pas dans les tout premiers initiateurs comme Claire l'était, mais assez vite, effectivement, elle m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration de cette nouvelle association. Parce que je crois effectivement que le profil qui était le mien, que j'ai un petit peu rapidement dressé, pouvait intéresser quant à justement la délivrance de ces savoirs dans un cadre que Claire et d'autres cofondateurs souhaitaient parfaitement laïque, en ce sens où ils souhaitaient que ce soit une université ouverte à toutes et tous, quelle que soit leur appartenance confessionnelle ou non, quelle que soit l'église à laquelle ils seraient adhérents éventuellement, pour juste, et dans une volonté de délivrer des savoirs de manière objective. Il ne s'agit pas ici de faire du catéchisme, mais vraiment de délivrer des connaissances. Il y a cette distinction à faire, en effet, entre les croyances qui relèvent de chacun, chacun peut croire en ce qu'il veut, et le savoir, les connaissances, où là, on délivre des faits, des connaissances sur les religions, l'espèce. Ça n'oblige en rien à croire, et après, chacun a sa propre interprétation des textes religieux, sa propre croyance. Mais là, il s'agit de délivrer des savoirs pour mieux appréhender, peut-être, ces faits religieux et ces traditions religieuses.
Donc, c'est un croisement aussi de plusieurs genres, je dirais. Hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, les lieux ont été aussi bien la maison du protestantisme que la faculté Vauban qui est à côté de nous, où on essaie justement d'élargir les différents lieux pour que des personnes différentes puissent se rencontrer. Et vous avez d'ailleurs donné un cours à la faculté sur la laïcité, au sujet de la laïcité. Et puis je pense que vous reviendrez aussi pour d'autres cours et d'autres sujets encore quand l'Université populaire reprendra avec les cours. Alors peut-être on peut... Ce que je voulais vous demander aussi, c'était cette Université populaire, pour vous... qu'est-ce qui a fait que vous y êtes engagé? Est-ce que c'est parce que vous étiez déjà engagé, je dirais, assez largement dans des associations ou aussi politiquement, hein, et donc que vous avez voulu avoir cette trajectoire aussi, cette relation avec les autres religions, de manière assez concrète, du coup. Et puis, qu'est-ce que vous désirez, vous, personnellement, y apporter?
Oui, effectivement, bon, je crois que j'ai toujours eu un intérêt sur ces questions-là, notamment parce qu'il m'est toujours apparu personnellement très important de faire de notre diversité factuelle en France une richesse. On est un pays qui connaît une immense diversité convictionnelle et confessionnelle. Et plutôt que d'en faire une source de tension, comme c'est trop souvent le cas, et comme l'histoire d'ailleurs nous l'a très largement appris, je préfère qu'on en fasse, comme beaucoup d'autres, une source de richesse. Et cette diversité, notamment religieuse, nous enrichit. Et quand on apprend, notamment comme ça a été le cas avec des cours sur Maïmonide, Saint Thomas d'Aquin, Averroès, on apprend énormément de choses. On se rend compte aussi que... au sein de chaque tradition religieuse, il y a une diversité d'analyses, de points de vue, de pratiques, et que finalement beaucoup de personnalités de ces différentes traditions religieuses peuvent se retrouver sur tout un tas de notions clés, typiquement entre ces personnalités-là que je viens de citer. Et donc ces sources d'enrichissement personnel et d'enrichissement collectif. Et ça nous permet ensuite d'avancer ensemble. En France, je pense qu'il y a une double inculture. Il y a une inculture laïque, ça j'ai pu le constater, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas si bien que cela ce qu'est la laïcité. Chacun a sa propre interprétation subjective, en fait, hein, de la laïcité. Chacun peut considérer que son interprétation de la laïcité, c'est la laïcité dans l'absolu, ce qui n'est pas le cas. Et puis, il y a une inculture religieuse, c'est-à-dire que on a un pays qui s'est très largement sécularisé, avec, effectivement, c'est vrai, un éloignement de la part d'une grande partie de la population de la pratique religieuse et des religions en général. Mais de fait, la religion est encore très présente dans l'actualité du monde et aussi dans notre actualité quotidienne. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment, on ne connaît plus notre propre histoire religieuse et on ne sait plus vraiment ce que signifie une religion et telle ou telle tradition religieuse. Et du coup, eh bien, prennent un certain essor les clichés, les a priori, les préjugés. Et du coup, ça crée ça de la tension, de la peur et parfois de la haine. Donc, alors qu'on est dans une situation de crise protéiforme, une crise sociale, crise économique, crise écologique, crise d'identité dans la mondialisation, cette méconnaissance de la question religieuse peut conduire à des crispations supplémentaires et à des tensions vives. Il faut les éviter et cette Université populaire des religions finalement participe à son niveau à cela en faisant tomber un certain nombre d'a priori, de préjugés sur, que l'on peut avoir sur les, entre les uns et les autres, entre traditions qui ne se connaissent plus vraiment, parce qu'en plus, on est dans un pays où finalement on a eu tendance, ces 40 dernières années, à se replier dans nos communautés, y compris dans l'habitat, avec une mixité sociale qui s'est un peu effritée, et donc on se mélange plus trop. Et donc, eh bien, les incompréhensions gagnent en terrain également, puisqu'on ne se croise plus, on ne se connaît plus, on n'est plus dans les mêmes cercles. Alors là, justement, on a une université populaire qui est là pour rassembler tout le monde, d'où que l'on vienne, quelles que soient ses conditions sociales aussi. C'est populaire, vous l'avez dit. Et on apprend finalement à mieux se connaître en apprenant la religion de l'autre. Et même ceux, j'allais dire, comment dirais-je, de telle ou telle religion qui va être traitée dans l'université populaire, ils vont apprendre des choses. Parce que finalement, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils savaient de leur propre religion était peut-être pas tout à fait complet. Et peut-être que finalement, ils vont découvrir des notions qui vont leur faire prendre du recul sur leur propre croyance ou leur propre perception de leur propre pratique. Donc tout cela est vraiment, je crois, source d'enrichissement personnel et collectif.
Tout à fait, oui. Ça s'est vu d'ailleurs dans le premier trimestre, dernier trimestre 2025, et aussi au début. On pourrait peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette année 2025, puisque nous sommes au début de celle de 2026. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce qui s'est passé, aussi bien au niveau des cours qu'au niveau de ce temps un peu, qui était un peu un temps d'expérimentation, en fait, puisque c'est un projet qui a été... je veux dire, lancer un peu à fond de train, du coup.
Oui.
D'une part, parce que Claire Desminard devait partir, et donc elle a avancé assez rapidement. Et il y a eu énormément de personnes, d'ailleurs, qui se sont rassemblées autour de ce projet avec enthousiasme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première année de l'université,
comme vous l'avez dit, je pense que c'était aussi forcément une période d'expérimentation. C'était le début. Il fallait tester différentes choses, différentes procédures, différents process. Donc Claire Desménard a, elle, dû partir pour exercer ailleurs ses fonctions. François Claveroli, ancien président de la Fédération protestante de France, a pris la suite et a donc est devenu le président de cette association de l'Université populaire des religions, entouré de différentes personnes d'horizons très divers, de traditions religieuses diverses, ou convictionnelles ou non religieuses. Hein. Donc, il y a vraiment de tout dans le conseil d'administration, des gens qui sont issus de la communauté catholique, israélite, musulmane ou non croyante, quelle qu'elle soit, ou d'autres confessions, convictions. Et donc, il a été testé d'abord des cours à la Maison du protestantisme, mais effectivement, il s'agissait aussi de montrer que c'était quelque chose de laïque et qui concernait toutes les religions, tous les courants de pensée, donc pas que à la Maison du protestantisme. Donc on a fait aussi un partenariat avec l'université de droit. Donc moi-même j'enseigne là-bas sur la laïcité, donc j'ai pu aider à ce rapprochement et donc pour délivrer des enseignements aussi au site Vauban, de la faculté Vauban, à côté. C'est pas loin et c'est un peu plus accessible avec un parking, etc. Et on va peut-être aussi donner des cours dans d'autres lieux. Il s'agit vraiment, toujours pareil, de trouver des solutions pour toucher le plus grand nombre et pour toucher toutes les communautés, toutes les traditions et les Nîmoises et Nîmoises ou autour de tous les horizons et de toutes les conditions. Donc là, c'était des expérimentations. Parfois, il y avait du monde. On a vu aussi avec Madame Romère, il y a eu beaucoup de monde. Parfois, il y en avait moins. Et donc, ça nous a permis aussi de caler en termes d'horaire, en termes de jours, en termes de lieux, pour essayer justement de toucher le plus grand nombre. Donc maintenant, effectivement, vous l'avez dit, on va passer dans une deuxième étape qui se veut beaucoup plus large, beaucoup plus importante, on l'espère, et qui donc va se lancer en commençant par une assemblée générale en avril pour recueillir justement l'avis, les analyses de l'ensemble des membres de cette université populaire de la religion, puisque c'est évidemment quelque chose qui se fait de manière très participative.
Dans les cours qui ont été donnés, la réflexion... les réflexions, je dirais, actuelles du conseil d'administration, notamment, puisque là, il y a un petit temps d'arrêt au niveau des cours. Mmh. Hein, certains s'en sont aperçus ou ont posé des questions. C'est plus là, actuellement, un temps de réflexion et de décisions différentes, de faire le point aussi, peut-être, sur ce qui s'est passé. Quelles ont peut-être été un peu, justement, les faiblesses, disons, de ce début d'expérimentation, comme tout début de projet. Il y a des choses à affiner, il y a des choses à reprendre, à repenser peut-être.
Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Comme tout projet qui se lance, dès qu'on veut toucher une envergure, obtenir une large envergure, ça devient compliqué. Quand on reste dans le petit cercle, c'est facile. Puis quand on veut toucher beaucoup plus de monde, il faut le penser autrement. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Effectivement, en plus, il y a eu des départs géographiques. Il y a eu des changements dans le conseil d'administration. Et puis, il y a eu une volonté de changer d'échelle. Et donc, à ce moment-là, en effet, il y a nécessité de reposer les bases en termes de communication, en termes de financement, en termes de locaux. Et ça, évidemment, ça suppose des discussions par les différents membres du conseil d'administration avec d'autres organismes, avec les différentes communautés religieuses. Et ça suppose de se poser. Ça suppose de se poser, de prendre un peu le temps pour ne pas le faire à la va-vite et donc ne pas faire des cours comme ça a pu être le cas. C'est vrai, où il y avait moins de monde parce que on n'avait pas pu communiquer dessus correctement ou parce qu'il y avait plusieurs événements au même moment, parce que justement, on n'avait pas su assurer cette cohérence globale avec les communautés qui participent au conseil d'administration, les communautés religieuses. Et ce regard plus englobant, plus au-dessus. Donc, pour éviter ce type de problématiques avec des cours qui ne sont pas aux bons horaires ou qui ne rassemblent pas suffisamment de personnes ou qui ne touchent pas suffisamment de personnes parce qu'on n'a pas bien communiqué, parce que le site ne fonctionnait plus, parce que les mails n'avaient pas été envoyés, vous voyez, ce genre de choses. Tout à fait basique, hein, j'allais dire. Il faut se poser un peu, s'assurer de qui pourra faire quoi précisément. Est-ce que tout le monde aura bien le temps de faire sa tâche, etc. etc. Et ça, c'est sûr que quand on passe à une autre échelle, il faut l'organiser. C'est évident. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on a eu un conseil d'administration important en début d'année qui a refixé toutes ces règles du jeu. Maintenant, on va valider les process en assemblée générale. Et là, ça pourra partir sur une autre échelle avec une sorte d'inauguration, je pense, hein, qu'on fera sans doute au début de l'été, public, pour relancer cette université populaire des religions V2, si je puis dire, qui soit à l'échelle véritablement d'une ville comme Nîmes, qui est quand même une grande ville, hein, une ville de 155 000 habitants, sans compter l'agglomération, et donc qui se devait d'être, de faire ce travail de technicité, de professionnalisation en fait, hein, puisqu'on est tous bénévoles, hein, on est tous bénévoles, et donc même si on le fait bénévolement, il faut qu'on arrive à se professionnaliser, il faut qu'on arrive à trouver quelques sources financières, des dons, il y en avait un petit peu, des petites cotisations, mais il faut un peu plus d'argent, et donc il faut professionnaliser la chose, parce que notre objectif à toutes et tous, c'est vraiment de toucher tout le monde, parce que si on reste entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. Le travail qu'on a expliqué tout à l'heure, d'enrichir collectivement la cité, la vie de la cité, de nous enrichir individuellement et de faire en sorte de faire tomber un certain nombre d'a priori, de préjugés, et du coup de participer à notre cohésion sociale, à notre cohésion nationale, quand on passe à cette échelle, évidemment, il faut se professionnaliser.
Nous allons continuer à en parler dans quelques instants, mais nous allons faire une petite pause musicale. Et c'est vous qui nous avez proposé... Qu'est-ce que vous nous avez proposé?
Je vous ai proposé une musique des années 80 qui s'appelle Jérusalem, d'Alpha Blondie, et qui en fait est intéressante, je trouve, parce que c'est une belle chanson qui rappelle qu'on ne doit pas faire la guerre au nom d'un Dieu, quel qu'il soit, et qu'on doit au contraire s'enrichir de notre diversité convictionnelle et confessionnelle.
C'est tout à fait dans la ligne droite de l'université populaire qui se veut un lieu de paix aussi, et d'échange et de paix. Alors nous l'écoutons, puis nous revenons juste après avec Nicolas Cadenne.
Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Adonai, Baruch Abba Yerushalayim, Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, Ibrahim. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, Ibrahim. Jerusalem, je t'aime.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous êtes sur le 103.2. Vous nous écoutez peut-être en DAB+, ou bien peut-être sur nos podcasts, nombreux et variés, que je vous recommande, et vous pourrez réécouter cette émission avec Nicolas Cadenne, que je reçois aujourd'hui pour l'Université Populaire des Religions. Et nous sommes en train de reprendre un peu le fil des choses qui se sont passées, avec beaucoup de belles choses positives, des cours formidables, des gens formidables qui font partie du conseil d'administration, qui se donnent beaucoup de mal. Et j'aimerais revenir sur le côté de justement université populaire par rapport aux cours. Je crois que ça a été un peu un constat, non pas que les cours étaient, je dirais, mauvais en soi, loin de là, parce qu'ils étaient formidables, mais peut-être il m'a semblé qu'il y avait une réflexion aussi au sujet de ces cours par rapport à ce côté populaire que l'on veut dans université populaire. Vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Il faut en fait trouver le bon équilibre entre la délivrance de connaissances et de savoirs de haut niveau, hein, vraiment qui nous permettent de nous enrichir individuellement et collectivement, comme on l'a dit, mais en même temps ne pas tomber dans des cours de spécialistes et dans un enseignement universitaire extrêmement qualifié qui supposerait des prérequis, vous voyez. Donc il s'agit de délivrer des savoirs où on n'ait pas besoin a priori de cours précédents, de qualifications au préalable. Alors néanmoins, il y aura toujours des cours un peu plus techniques que d'autres, et désormais, justement, on y a un petit peu réfléchi, on l'indiquera lorsque il s'agit de cours qui quand même nécessitent d'avoir un petit peu de connaissances au préalable, et donc peut-être d'avoir suivi d'autres cours de l'université populaire, puisque vous le savez, hein, chacun peut aller au cours qu'il veut, hein, il n'y a pas d'obligation de suivre évidemment tous les cours, c'est ouvert à toutes et tous très librement, eh bien on l'indiquera. Mais la plupart des cours seront quand même en effet ne nécessiteront pas, pardon, de prérequis spécifiques, mais c'est là où il faut trouver le juste équilibre, c'est-à-dire qu'on a des intervenants de grande qualité, vous l'avez dit, mais il faut évidemment que les intervenants aient en tête que parfois ils vont délivrer des savoirs à des novices, à des personnes qui évidemment n'ont absolument pas la moindre connaissance sur les textes ou sur les personnalités qu'ils vont traiter, et donc qu'ils aient un langage extrêmement accessible à toutes et tous, en se disant bien qu'on parle à tout le monde, quoi, et donc à des gens qui peuvent être experts du sujet, ou tout du moins qui ont une certaine connaissance, ou même qui pratiquent la religion en question, ou voilà, et d'autres pas du tout. Donc il faut véritablement avoir trouver cet équilibre et avoir un langage qui satisfasse le plus grand nombre. C'est vrai que c'est cet équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver.
Il faut toucher aussi les jeunes
en particulier,
de notre cité.
Vous avez tout à fait raison, il faut
parce
toucher aussi les jeunes. Hein. Il ne faut pas toucher que les seniors, il faut toucher toutes les tranches d'âge. Quand on parle de personnes de tout horizon, c'est aussi toutes les tranches d'âge. Et c'est vrai que dans nos expérimentations dans l'année écoulée, on touchait surtout les personnes qui avaient un peu plus de temps, soit en retraite, ou en tout cas qui étaient peut-être actifs, mais dans la communauté concernée. Et donc, on n'arrivait pas encore à toucher tout le monde. Là, il va vraiment falloir, et c'est ce à quoi aussi on travaille, effectivement, toucher toutes les classes de la société, et notamment de manière intergénérationnelle, et donc en effet, y compris les plus jeunes, qui peuvent, on le sait, qui sont même intéressés par ces questions, qui sont très intéressés par ces questions, parce qu'on est dans une situation où beaucoup sont en quête d'identité, quoi. On est dans un monde très anxiogène, où on a besoin de repères, et les jeunes plus peut-être que les moins jeunes, et parce qu'ils sont soumis à un stress permanent, les réseaux sociaux sont très angoissant, l'actualité est angoissante, les crises que l'on traverse sont angoissantes, le contexte international est angoissant, la crise écologique est angoissante, enfin bref, on est dans une situation assez anxiogène, et donc dans ce type de situation, parfois, on se tourne vers la religion, parce que ça peut aussi être vu comme une valeur refuge. Là, nous, il ne s'agit pas du tout de faire de la théologie du catéchisme, mais néanmoins, pour ceux qui veulent se retourner vers la religion, ça peut être aussi intéressant d'avoir des connaissances sur ces religions, sur comment elles se sont constituées, comment elles peuvent se pratiquer de diverses manières à travers le monde. Et donc, on est aussi là pour donner des repères, des clés de compréhension du monde, parce que les religions, ça fait partie des faits sociaux dans le monde, à tout un chacun, et notamment donc à ces jeunes qui sont un petit peu en perte de repères.
Alors c'est très important donc de pouvoir toucher tout le monde, et concrètement donc les cours, donc vous nous avez dit une assemblée générale au mois d'avril, la date n'est pas encore tout à fait fixée,
Je pense qu'il faut justement en cours d'achèvement. Voilà, il faut trouver la date qui corresponde au plus grand nombre, voilà, et à laquelle on aura le plus grand nombre de personnes.
Donc nous vous tiendrons au courant,
bien sûr.
Radio Alliance Plus fera le relais encore une fois, comme pour les cours que nous avons enregistrés.
Merci.
Et puis donc les cours reprendront.
Tout à fait.
Effet en septembre, octobre,
pour
l'année universitaire 2026-2027.
Tout à fait.
Voilà, donc il y aura une communication qui vous sera faite en temps voulu. Nous comptons bien sur vous, amis protestants, catholiques, musulmans et juifs, ce beau projet d'université populaire. Et donc, nous attendons l'Assemblée Générale. Et puis, cet événement dont vous nous avez parlé, qui réunira beaucoup de monde et qui sera aussi un lancement officiel. Merci beaucoup, Nicolas Cadet, d'être venu nous redire tout ce que
c'est
l'Université populaire peut nous donner.
Et
bonne chance, bonne vie à l'Université populaire
des
religions.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.